À présent, je me tourne vers vous. Vous avez été la première, il faut le rappeler, à avoir accepté l'invitation dans ce débat. Nous tenions à vous en remercier. Vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière depuis 2008, si je ne me trompe pas, professeur d'économie et de gestion dans un lycée d'Aubervilliers. Vous avez 47 ans, c'est la deuxième fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. La première, c'était il y a 5 ans, en 2012. Vous aviez alors obtenu 0,56% des voix. Même question qu'à Jacques Cheminat, les internautes vous connaissent peut-être peu. Qui êtes-vous, au fond, Nathalie Arthaud, au-delà de cette brève présentation, et où comptez-vous emmener la France si jamais vous accédez à l'Élysée ?
Alors, je ne vais pas jouer à ce jeu-là d'accéder à l'Élysée. Je sais très bien que je représente un courant minoritaire, mais en même temps, ce n'est pas non plus mon objectif. Voilà, je ne suis pas candidate pour aller à l'Élysée. Voilà, moi, je ne veux pas gérer les affaires dans ce cadre capitaliste qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Moi, je veux le renverser. Voilà, et je suis convaincue que les travailleurs, ensemble, collectivement, peuvent effectivement renverser cette société qui est dominée par le pouvoir de l'argent et par une classe, la classe capitaliste qui le concentre en ses mains et qui impose une véritable dictature en fait sur toute l'économie et sur la société. Et dans cette élection, j'appelle simplement les travailleurs, les ouvriers, les salariés, les employés, les chômeurs à exprimer leur politique, leur perspective à l'opposé de toute celle qui est présentée par les différents grand candidat.
Alors peut-être que certains de ces ouvriers vous poseront des questions. Emmanuel Macron, changer de système économique, changer de système culturel, également faire coïncider les deux pour arriver à plus d'emplois, c'est votre proposition, Jacques Cheminade. Je me tourne vers vous maintenant, Nathalie Arthaud, même question. Quel est votre projet pour faire baisser le chômage ?
C'est pour nous la priorité. Et je crois que pour l'ensemble du monde du travail, c'est la priorité. Il faut un emploi et un salaire pour tout le monde. La première des choses, elle est toute simple, c'est d'arrêter cette hémorragie en interdisant les suppressions d'emplois, à commencer par ces entreprises qui font des bénéfices. Simplement, les suppressions d'emplois chez Peugeot, les suppressions d'emplois à la BNP Paribas, qui a réalisé 7,7 milliards de bénéfices et qui envisage de fermer des agences, de supprimer des emplois. Les suppressions d'emplois chez SFR, on les annule. On interdit ces suppressions d'emplois parce qu'à chaque fois, c'est des postes qui manquent pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et la deuxième mesure, c'est évidemment d'imposer la répartition du travail entre tous. On est confronté à une véritable aberration où ceux qui sont en emploi ont du travail par-dessus la tête, où c'est les cadences, où ce sont des horaires qui sont devenus délirants. Il faut rajouter le temps de transport à tout cela. Et effectivement, ils n'en peuvent plus. C'est vrai pour le privé, c'est vrai pour le public aussi. On a beaucoup parlé des hôpitaux où le personnel était à bout. Donc, il faut effectivement répartir le travail, tout simplement en baissant le temps de travail de ceux qui ont un emploi et donc en embauchant à côté. Mais pour nous, c'est tout simplement la priorité dans les services publics, je l'ai dit dans les hôpitaux, mais dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Mais non, pas du tout. C'est pareil dans les transports. Donc il y a un très grand nombre d'emplois à créer dans la société et il faut effectivement prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans les profits. Bien sûr que ça coûtera de l'argent au grand patronat, mais moi je crois que ça n'a pas de sens de voir aujourd'hui cette bourgeoisie prospérer, accumuler des sommes inouïes. Il faut effectivement que ces bénéfices, que ces profits réalisés d'ailleurs par les travailleurs sur le dos des travailleurs servent d'abord et avant tout à l'emploi et au salaire.
C'est l'une de vos propositions phares, Nathalie Arthaud, l'interdiction des licenciements. Il y a un certain nombre de citoyens sur Twitter qui vous demandent, à l'image de fans de Barta, est-ce que c'est vraiment possible d'interdire les licenciements?
C'est tout simple. C'est tout simple. Aujourd'hui, quel est l'obstacle finalement à ce que on empêche la BNP de supprimer des emplois ou qu'on empêche PSA, le groupe Peugeot, Citroën, de supprimer des emplois? Eh bien, c'est simplement le désir, la volonté égoïste de quelques actionnaires qui en veulent toujours plus. Donc, c'est une question effectivement de contrainte. Nous pensons qu'il faut les obliger, qu'il faut leur interdire, qu'il faut effectivement les contraindre. Sous peine, s'ils ne veulent pas collaborer, s'ils ne veulent pas, s'ils n'acceptent pas cette mesure qui est une mesure de salut public, je le répète, eh bien, sous peine de réquisition, sous peine d'expropriation. Parce que si cette classe capitaliste prospère en ravageant des régions entières, en saccageant la vie de millions et de femmes, eh bien, on ne peut pas l'accepter.
Autre question qui porte sur l'emploi et qui...
Des internautes, juste Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud, quand on vous entend sur ces premières réponses, on se dit qu'il peut y avoir des points de convergence entre vous sur la nécessité d'un État fort et interventionniste pour régler la problématique du chômage. Est-ce que vous pouvez tomber d'accord sur un ou deux points là-dessus ?
Non, moi je ne crois pas ça. Je crois que c'est un combat, c'est une lutte que les travailleurs ont à mener contre ceux qui décident aujourd'hui des licenciements. Vous savez, c'est pas des mesures qui... c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Quand il y a des usines qui ferment, quand il y a des suppressions d'emplois dans tous ces secteurs-là, ce sont des hommes et des femmes en chair et en os qui le décident. Et qui le décident pourquoi ? Eh bien, pour augmenter leur rentabilité, pour augmenter leur profit à la fin. C'est un choix de classe. Vous savez, il y a une véritable guerre sociale, mais qui est menée par une classe, la classe capitaliste qui concentre les capitaux, pour prospérer. Eh bien oui, elle aggrave l'exploitation. Donc elle concentre le travail sur de moins en moins de salariés, et les autres, elle les met sur le carreau. Donc moi, j'appelle les travailleurs à se battre avec leur force collective, avec leur nombre, avec leur conscience. Moi, je crois que c'est comme cela que, effectivement, on inversera la situation. Parce que l'argent existe. L'argent existe dans ces entreprises. Vous savez, quand elles ont réalisé... j'ai regardé rien que Sanofi. Sanofi a distribué en 2016, pour l'exercice 2015, 6,6 milliards de bénéfices, de dividendes, très exactement, à ses actionnaires. 6,6 milliards. Eh bien, avec cet argent, Sanofi aurait pu multiplier par 2 le nombre de ses salariés à l'échelle du monde. Multiplié par 2, vous voyez ? Donc on aurait pu effectivement créer le double d'emplois sur ce groupe. Ça veut dire des dizaines, ça veut dire des centaines de milliers d'emplois pour que justement tout le monde accède à un emploi. Et moi je crois que dans cette société, vous savez, un emploi, c'est le seul véritable droit qu'ont les exploités. C'est de pouvoir travailler pour gagner leur croûte tout simplement. Et bien même ce droit élémentaire-là, vous voyez, il est dénié. Hein, c'est le combat. C'est une question de rapport de force.
Question de Jonathan qui se demande...
De la campagne présidentielle, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est quasiment 20h45. Nos deux débatteurs ce soir, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès. Continuons à parler avec vous de travail, d'emploi, avec cette question d'un certain Charles Baudelaire, joli pseudonyme sur les réseaux sociaux, et qui s'adresse à vous, Nathalie Arthaud. Que pense Nathalie Arthaud de la socialisation de l'ensemble du travail pour permettre le revenu universel ? C'est l'une des propositions phares d'un de vos concurrents, Benoît Hamon.
Alors d'abord, moi je voudrais bien éclaircir mon propos. Moi je ne parle pas de la France. Je pense que justement, il y a deux mondes, deux classes qui s'opposent, qui ont des intérêts qui sont inconciliables. D'un côté, effectivement, une classe capitaliste qui prospère, qui accumule toujours et encore sur la base de l'exploitation, sur la base du travail et du vol du fruit du travail de millions et de millions de salariés. Donc moi, j'appelle effectivement les travailleurs simplement à se battre pour leurs droits. Voilà, ça c'est une première des choses. Et leurs droits, je crois que ça commence par un emploi. Et je ne suis pas d'accord avec effectivement même le principe du revenu universel et avec tout le raisonnement de Benoît Hamon quand il explique qu'il y aura de moins en moins de travail du fait de la mécanisation et que donc il y aura de plus en plus de chômeurs, n'est-ce pas, et qu'il faut quand même bien leur verser une petite aumône. Hein. Alors on ne sait plus tellement d'ailleurs à combien elle s'élève, etc. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est l'acceptation du chômage, ça. Donc moi je suis pour lutter effectivement pour que chacun ait un emploi, pour que chacun ait un salaire, parce que je crois que le travail, c'est pas seulement justement de quoi boucler les fins de mois, payer son loyer, c'est aussi de la dignité. Je crois que tout le monde dans cette société doit pouvoir être intégré à une activité utile en fonction de ses moyens, y compris ceux qui sont handicapés, y compris ceux qui sont invalides, parce que souvent d'ailleurs ils ont fait des boulots difficiles qui les ont cassés. Il faut aussi qu'ils soient intégrés à l'activité. Donc on répartit le travail entre tous, on baisse effectivement les heures de travail, mais on accède tous et on prend chacun part à l'œuvre collective en quelque sorte. Mais ça, je suis bien consciente que pour l'obtenir, il va falloir, oui, une levée en masse des travailleurs, parce qu'il va falloir l'imposer. La politique aujourd'hui des grands groupes capitalistes est exactement l'inverse, parce qu'il n'y a que leur profit, que leur enrichissement individuel qui compte. Eh bien, moi, j'appelle les travailleurs à prouver cet objectif-là, parce que sans cela, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera. Mais c'est 7, 8, 9 ou 10 millions. Il faut empêcher cela et inverser la situation au travers d'un rapport de force. Il faut un réveil de la classe ouvrière.
Puisqu'on parle du revenu universel et que c'est l'un des sujets...
Ces robots, il ne faut pas les voir comme des ennemis ou comme des concurrents. Hein. Il faut, encore une fois, qu'on parte, nous, de nos besoins. S'il y a des robots, des machines qui soulagent le travail des hommes, on devrait tous s'en réjouir. Pourquoi est-ce un drame et une catastrophe dès qu'on installe une machine ? Parce que le grand patronat en profite pour supprimer les emplois, parce qu'il en profite hein, pour faire encore plus d'argent sur le dos de ceux qui restent au travail.
Et vous avez la même crainte avec l'intelligence artificielle.
Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc de toute façon, le problème, c'est que voilà, il faut qu'on mène ce combat. Hein. On ne peut pas laisser une minorité capitaliste, une classe qui est de plus en plus parasitaire, qui est minoritaire, qui est irresponsable, diriger cette société, parce qu'effectivement. Hein, on court à la catastrophe avec ce chômage de masse, avec l'exploitation pour les uns, la marginalisation pour les autres. Donc, s'il y a tous ces progrès-là, hein, parce que y compris ces robots, cette mécanisation, l'intelligence artificielle, elle produit des richesses, ben, ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir en profiter. Donc, il faut absolument empêcher qu'une minorité accapare tout cela pour son compte. Et il faut revendiquer notre dû. La société, on ne peut imaginer une société harmonieuse qu'ainsi. Hein, que si effectivement chacun accède à un emploi, à un salaire correct, à l'éducation, à un logement, à la possibilité de se soigner, hein, effectivement, avec tous les progrès de la médecine actuelle. Donc, c'est vraiment le combat que les travailleurs ont à mener. Parce que moi, je suis toujours frappée de voir à la fois d'un côté les potentialités immenses de cette société. On n'a jamais été aussi riche, aussi plus avec ses avancées. Enfin bon, on est capable de réaliser des prouesses incroyables. Hein, et en même temps, on ne nous parle que de crise, de déficit et de sacrifice. Et on nous met dans la tête qu'il faudrait accepter de vivre moins bien que nos parents, qu'il faudrait accepter d'être plus pauvre, d'être de travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans. Enfin bon, eh bien non. Il faut effectivement être conscient que toutes ces richesses-là, ce sont les travailleurs qui les produisent tous. Hein, que c'est nous, les progrès de la médecine, les progrès des transports, ce sont nous les travailleurs qui faisons tout. Donc on a des droits dans cette société et il faut se battre effectivement pour les revendiquer.
Jacques Cheminade, même question. Comme éducation et de culture, vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus, Nathalie Arthaud. Mais je voudrais quand même qu'on évoque encore deux sujets, celui des classes moyennes et des retraites, avant de clore ce premier chapitre. Première question de Noémie. Que sont pour vous les classes moyennes et que comptez-vous faire pour cette classe oubliée, Nathalie Arthaud?
Alors c'est vrai que... ça a été une invention, hein, cette expression, les classes moyennes, pour ne plus parler de classe ouvrière. Voilà, parce que aujourd'hui, ceux qui se définissent comme classe moyenne sont ceux qui ont un emploi, sont ceux qui gagnent autour du SMIC, de 1300 euros, etc., etc. Et je crois que c'est un piège. Hein, c'est un piège de considérer que voilà, il y a différentes strates de travailleurs, la classe ouvrière, les classes moyennes, et puis les classes supérieures, etc. Et que chacun a des intérêts particuliers. Moi, je crois qu'au contraire. La force du monde du travail, c'est d'être unis derrière la conscience d'être exploité. Alors bien sûr à des niveaux différents. Quand on est femme de ménage et quand on est pilote d'avion, on n'est pas exploité de la même façon, y compris quand on est enseignant comme moi. Hein, c'est sûr qu'on n'est pas traité de la même façon. Et en même temps, notre sort il est commun parce que quand on veut une augmentation de salaire, eh bien il faut se battre. On peut être licencié comme des journalistes, et il faut se battre. Et vous voyez, c'est cette conscience-là que moi, je veux justement remettre en avant. Parce que c'est avec cette conscience-là que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat et ont réussi à faire avancer leurs conditions. Moi, j'appelle dans cette élection à ne pas se laisser abuser par ces candidats qui prétendent pouvoir transformer le sort des travailleurs demain, mais qui ne sont que des pantins, dont les ficelles sont tirées par cette classe capitaliste. Parce qu'au bout du compte, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Et ça, on le voit d'élection en élection. Tous les gouvernements ont été essayés, on a eu toutes les couleurs. Hein. Et puis au bout du compte, c'est toujours les mêmes qui dominent et qui décident dans leur entreprise hein, de ce, voilà, s'ils veulent licencier, fermer, changer les horaires, ne plus produire, ne plus investir, ne plus... Bon, voilà. Donc, en fait, cette classe capitaliste, elle domine. Et moi, je pense que les travailleurs, eh bien, ils ne sont pas voués à subir. C'est... c'est eux qui en réalité fabriquent ces super profits, c'est eux qui font prospérer hein, cette bourgeoisie. Et donc ils sont capables d'imposer la loi à condition qu'ils en aient conscience et qu'ils aient confiance effectivement dans leur force collective. Ce qui signifie d'abord ne pas accepter toutes ces divisions.
Je reviens à des considérations beaucoup plus prosaïques. Vous avez évoqué le SMIC, Nathalie Arthaud, dans ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il est de 1150 euros par mois. Si vous arrivez au pouvoir, même si on a bien compris que ce n'est pas ce que vous visez, vous, personnellement, à combien vous mettez le SMIC?
Moi, je pense que l'objectif pour effectivement vivre correctement, c'est 1800 euros net par mois. Voilà, tout simplement.
Jacques Cheminade.
Je suis très proche de ce chiffre-là, c'est 1700.
Devlin, qui est retraitée depuis 3 ans et qui nous demande sur Twitter, je n'ai pas eu un centime de revalorisation donc depuis 3 ans. Que comptez-vous faire pour les retraites?
Mais oui, ce n'est absolument pas normal parce que il y a entre les salaires, les retraites et puis les prix, il y a une course perpétuelle et on perd toujours du terrain parce que justement, c'est toujours les travailleurs qui sont sacrifiés dans cette affaire. Et vous voyez que les capitalistes, ils peuvent fixer leurs prix, ils peuvent augmenter leurs prix. Mais nous, pour augmenter nos salaires, nos pensions de retraite ou les allocations, il faut se battre. Voilà. Et moi, je pense que oui, bien sûr que l'objectif d'indexer les salaires sur les prix, les pensions de retraite sur les prix, est un objectif indispensable. Et ça nécessite, à mon avis, justement un autre objectif pour lequel il faut se battre, c'est-à-dire la transparence des comptes des entreprises. Il faut que les travailleurs puissent mettre leur nez dans les décisions, dans les vraies comptabilités des entreprises, qu'ils puissent justement voir comment ils jouent avec les prix, comment où va l'argent, pourquoi il y a tous ces bénéfices, tous ces profits qui sont réalisés et pourquoi il y a des suppressions d'emplois, pourquoi on nous explique qu'on peut jamais augmenter les salaires, combien ils versent aux banques, combien ils touchent de l'État, parce que l'État verse à fond perdu dans ces grands groupes capitalistes, c'est 41 milliards, je vous rappelle, le pacte de responsabilité, 41 milliards qui ont été donnés dans ces grandes entreprises, où sont-ils passés ces 41 milliards? Vous savez, voilà, dans les profits du CAC 40, c'est ça la réalité. Alors voilà, c'est aussi permettre aux salariés qui sont dans les entreprises d'imposer la transparence, le contrôle sur les comptes et sur les décisions des entreprises. Voilà comment on serait en situation effectivement de véritablement se défendre contre les attaques quotidiennes, contre notre pouvoir d'achat, contre nos emplois. Voilà.
Oui, 2 points.
Grand merci à vous. Restez avec nous. Posez-nous vos questions sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag l'autre débat, tout attaché, ou bien sur la page Facebook où vous pouvez, Facebook Live, où vous pouvez nous suivre en direct. Deuxième thème après l'emploi, après le travail, l'éducation, la culture. On a commencé à en parler un peu avec vous deux depuis le début de ce débat. Et cette grande question qui va dominer nos échanges dans les minutes qui viennent, comment réduire les inégalités en termes d'éducation et en termes de culture. La France est l'un des pays où le milieu social influe le plus sur les résultats scolaires. C'est ce qui ressort notamment de la dernière enquête PISA menée par l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Comment faire donc pour tenter de réduire ces inégalités? Nathalie Arthaud.
Mais il faut des moyens et il faut embaucher des enseignants, embaucher des ATSEM dans les écoles. Il faut commencer bien sûr par les écoles, les collèges et de façon massive.
Les ATSEM, ce sont ces aides.
Qui travaillent dans les écoles maternelles en particulier et qui sont très précieuses. C'est des aides très précieuses pour les enseignants. Et oui, parce que là, on parle de jeunes, d'enfants qu'il faut entraîner, souvent, y compris, c'est des enfants qui ont besoin. Parce que leurs parents n'ont pas pu faire d'études ou parce que leurs parents ne maîtrisent pas forcément bien le français, qui ont besoin que l'école leur apporte tout cela. Et donc, il faut effectivement baisser le nombre d'élèves par classe et donc embaucher des enseignants. Moi, j'entends que sur l'éducation nationale, il y a toute une série de faux débats. Alors, on nous parle de remettre en place l'uniforme à l'école, on nous parle des rythmes scolaires, on nous parle d'un tas de choses, mais de la carte scolaire, mais pas de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir travailler en petits groupes, de pouvoir s'occuper de chacun des enfants, de pouvoir lui donner, l'entraîner sur la base de ce qu'il rend, d'attiser sa curiosité, l'envie d'apprendre. Et ça, je suis convaincue, moi je suis enseignante, je travaille à Aubervilliers dans un quartier défavorisé. Je sais qu'on peut entraîner les jeunes, les enfants à tout cela, à condition d'en avoir les moyens. Voilà. Donc oui, moi je pense que l'argent qui existe dans la société, et je trouve scandaleux de voir que le gouvernement, au lieu hein, de réserver l'argent public, justement, à l'éducation nationale, au transport, à la santé, s'en servent pour encore inonder, hein, le grand patronat, sans condition, sans aucune surveillance, parce que cet argent-là, eh ben, il devrait servir et ça serait effectivement une richesse, hein, pour toute la société.
Jacques Cheminade, comment on réduit les inégalités à l'école ?
On arrive sur ce thème, hein, sur Facebook et sur Twitter. Une question posée par Arthur Imbert sur Facebook à vous deux. Quel est votre avis sur la réforme des rythmes scolaires qui a été très critiquée au cours des dernières années ? Nathalie Arthaud.
Mais je crois que justement, à partir du moment où on essaye de changer un certain nombre de choses, mais sans avoir le préalable, c'est-à-dire les moyens humains d'abord, les moyens en encadrement, en compétences, ce qui pourrait être de cet ordre-là, hein, les rythmes scolaires, parce que l'idée de dire que l'après-midi on puisse ouvrir offrir aux jeunes, aux enfants, diverses activités.
Je vous réponds à cette question, Nathalie Arthaud. Quel est vous votre rythme idéal pour les élèves, les écoliers d'une classe de CE1, par exemple?
Non, mais sans doute que le rythme idéal, c'est de travailler un petit peu plus le matin, moins l'après-midi, hein, en tout cas d'utiliser les heures de concentration utiles, 9h, 11h30, d'abord cela, effectivement, de façon régulière. Mais encore une fois, le problème, c'est que si on
c'est
oublie...
C'est une bonne réforme, mais on n'a pas mis les moyens
si
nécessaires.
On oublie l'essentiel, si on oublie l'essentiel, c'est-à-dire comment on accueille les enfants, à quoi justement on les occupe l'après-midi, comment on leur ouvre véritablement des fenêtres sur le monde. Hein, vous savez, de ce point de vue-là, les inégalités se sont creusées d'école en école, parce qu'effectivement, dans certains endroits, les élèves sont en fil des perles, quant à d'autres, ils vont découvrir l'équitation et au travers de cette activité, effectivement, apprennent toute une série de choses, y compris la confiance en eux. Donc, ça creuse en réalité les inégalités, parce que dès qu'on veut faire ce genre de choses, sans mettre les moyens, on condamne les quartiers pauvres, les communes déjà en difficulté, à offrir une sous-éducation aux enfants. Donc, on peut pas faire comme ça du bricolage, il faut une véritable volonté. Et puis, tant que ceux qui gouvernent veulent d'abord et avant tout servir le grand patronat, la bourgeoisie qui le demande, eh bien on n'y arrivera pas. Donc encore une fois, c'est un combat aussi global qu'il faut mener.
On continue de parler de culture et d'éducation. Cité sociale à l'école, comment on fait pour l'imposer si vous pensez que ça doit être le cas? Et puis sur la question que je reformule, hein, quelle politique de recherche et quel rôle de l'État dans la culture?
Non, mais moi je crois que la mixité sociale, à partir du moment où la société est gangrénée par des inégalités, où il y a des ghettos, où il y a des villes qui concentrent la pauvreté. Prenez Aubervilliers. Qu'est-ce que ça veut dire, la mixité à Aubervilliers? Vous croyez qu'on va faire venir des enfants du 16e arrondissement pour aller dans les écoles d'Aubervilliers? Et combien même on le ferait? Qu'est-ce que ça? Vous croyez qu'ils se mélangeraient? Et vous croyez que tout ça, qu'ils apprendraient quoi par diffusion? Non.
Comment on
non,
fait, alors
non, non. Ce qu'il faut, c'est lutter contre les inégalités. Voilà. Moi, je n'accepte pas cette division de la société avec des pauvres d'un côté, hein, et des riches de l'autre. Voilà. Moi, je milite pour transformer ça, pour la changer, cette société, et pas pour essayer de bricoler, hein, en disant il y a des inégalités, mais faut un peu moins, et puis quand même que les jeunes, on n'aura pas le choix. Voilà, si on ne change pas cette société radicalement en visant ceux qui aujourd'hui sont responsables de la situation, hein, et j'insiste, sur une classe qui possède toutes les richesses, et quand je dis ça, ce n'est pas un fantasme. Hein, aujourd'hui, en France, il y a 500 personnes qui possèdent 460 milliards à elles seules, c'est-à-dire plus que le budget de la France. Là, on parle de la recherche, mais vous vous rendez compte l'argent qu'il y a là, hein, alors que la recherche, elle doit se satisfaire de très très peu d'argent. Moi, je parle de 20 personnes qui possèdent 21 milliardaires, qui possèdent autant que 20 millions de femmes et d'hommes. Et non seulement ils possèdent énormément d'argent, mais ils concentrent du coup les décisions. Ce sont eux qu'on retrouve dans les conseils d'administration des banques et qui décident de qu'est-ce qu'on produit, où, comment, avec qui. Et donc, ils sont responsables effectivement de la situation sociale, des inégalités, de ce chômage. Et moi, je suis là pour dire aux travailleurs, on doit les combattre, on ne peut pas accepter cela. En fait, on nous parle de république, Mais en fait, on est dans un. On a une dictature absolue du grand capital. On est confronté à cela. On vit. Hein. Il y a le roi du caoutchouc, c'est Michelin. Le roi de l'automobile, c'est Peugeot. La reine des cosmétiques, c'est L'Oréal. Hein. Et ils imposent leur volonté. Donc, il faut changer cela. Et c'est comme cela qu'on pourra s'en prendre aux racines des inégalités, des injustices.
Nous allons continuer à parler d'éducation, de culture, nous parlons également d'handicap, de santé et puis de sécurité à venir dans quelques instants. Si vous voulez poser vos questions sur ce thème, sur la sécurité, n'hésitez pas à le faire sur notre compte Twitter avec le mot dièse, le hashtag L'autre débat ou sur la page Facebook d'Explicit dans les commentaires de ce débat que vous voyez en direct grâce à Facebook Live. Nous attendons vos questions. Questions sur l'éducation, on y revient avec vous, Jacques Cheminade, et avec Julien Ribes qui nous pose cette question sur Facebook. N'y a-t-il pas trop de matières différentes à enseigner au collège et au lycée ?
On va passer à une question sur le handicap qui nous est posée par Mac Manu sur Twitter. En tant que déficient visuel, Mac Manu veut savoir ce que vous proposez pour les personnes handicapées. Nathalie Arthaud.
Bah, moi, ce que je propose pour tous, hein, c'est de se battre pour effectivement que la société elle redevienne véritablement humaine, hein, c'est-à-dire elle redevienne une société où tout le monde aurait sa place et où on ne serait pas conçu que comme des machines à être exploitées, hein, des machines d'ailleurs qu'on peut brancher quand on en a besoin, débrancher, mettre à la benne quand on en a plus besoin, parce que c'est comme ça que le monde du travail est traité aujourd'hui. Et oui, je sais que y compris bah, les personnes handicapées, les personnes invalides, hein, qui sont moins facilement exploitables, qui sont moins malléables, moins corvéables, et bien souvent elles sont exclues du monde du travail, exclues et de l'essentiel donc de la vie sociale. Et moi, je trouve ça pas normal. Mais encore une fois, toute cette société capitaliste, elle pousse dans ce sens-là d'inhumanité. Où c'est la concurrence permanente, hein, c'est la compétition entre chacun, hein. Il faut se battre pour tout maintenant dans cette société, hein, pour avoir un boulot, pour trouver une place en crèche, pour trouver un logement, pour trouver. Ben moi, je combats ça parce que cette rareté, hein, pour cette misère finalement pour les classes populaires, eh bien c'est une politique. Et si on doit se partager nous la misère, c'est parce que à un pôle, il y a une minorité qui accapare l'essentiel des richesses. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener si on veut effectivement, eh bien, une société, encore une fois, véritablement, qui prenne en compte bah, l'humanité dans toutes ses dimensions, dans toutes ses spécificités, dans toutes ses différences.
Jacques Cheminade, vos propositions pour les personnes handicapées.
Il y a une chose. Handicap pour parler du système de santé et pardon. Notamment d'une question qui revient beaucoup ces dernières semaines et même ces derniers mois, les perturbateurs endocriniens. Que feriez-vous pour lutter contre ces perturbateurs qu'on retrouve dans des produits de la vie courante ?
On a tous les moyens de combattre les excès de l'industrie pharmaceutique et on laisse faire.
Les interdire ?
Mais bien sûr.
Les perturbateurs endocriniens ?
Bien sûr, avec leurs effets, mesurer leurs effets, voir ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, on agit.
Nathalie Arthaud ?
Ah oui, moi je serais pour des mesures évidemment de précaution, hein. S'il y a un doute, eh ben il faudrait avoir des interdictions, bien sûr. Mais regardez comment ceux qui gouvernent, ils sont bien plus informés que nous tous ici, hein, sur les dangers éventuels de ces perturbateurs endocriniens, hein. Et regardez comment ils n'arrivent même pas à établir une liste, ils n'arrivent même pas à avancer, ne serait-ce que d'un petit pas dans cette direction-là, parce que il y a des intérêts financiers en jeu, voilà, parce qu'ils ne veulent surtout pas gêner les marchés d'un tel ou d'un tel, et parce que voilà, ils sont complètement soumis, hein, aux volontés patronales, hein, cela fait les affaires d'un industriel, hein, je peux vous dire que bah voilà, ils vont tous finir par s'aligner. Regardez le scandale du diesel. La France a-t-elle donné la prime au diesel, parce qu'on avait Peugeot qui avait la motorisation diesel et qu'il fallait absolument lui offrir des marchés, l'aider en fait, hein. Bon, tout ça c'est pour le business, et tant qu'effectivement tous ceux qui dirigent, hein, tous ces gouvernements, hein, considèrent que leur rôle, c'est d'abord et avant tout de gérer les affaires de cette bourgeoisie, de ces grandes entreprises, et point barre, eh bien, on ne s'en sortira pas. Voilà, moi, je suis toujours frappée par ces discussions sur l'écologie, parce que ils en savent bien plus que nous. Hein. Et puis, une fois, et d'ailleurs, ils le disent quand ils font leur campagne, ils expliquent les méfaits, les problèmes qui se posent, etc. Puis, une fois arrivés au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Bah parce que voilà, ce sont toujours les grandes entreprises qui ont le dernier mot. C'est ça la réalité. Donc tant qu'on ne veut pas lutter contre la rentabilité, la loi du profit, eh bien on peut rien faire sur ce terrain-là.
Il y a deux choses. Il y a ce que
la santé. Une question sur le cannabis. Pourquoi le cannabis médical reste aujourd'hui inaccessible en France ? Et je me permets de prolonger la question de Sevic sur Facebook. Est-ce qu'il faudrait, d'après vous, autoriser l'usage de ce cannabis médical ? Et voilà, plus généralement, votre position sur la dépénalisation et ou la légalisation du cannabis.
Moi, sur le cannabis médical, honnêtement, là, je mets un joker, hein, parce que, voilà, moi, là-dessus, je ferai confiance, aux médecins, qu'est-ce qu'ils en disent, etc.
Vous avez déjà fumé du cannabis, d'ailleurs,
pourquoi pas? Non, ça m'a jamais tenté, en fait. Moi, j'étais plutôt sportive et j'ai évité un peu la cigarette, etc. Voilà. Et sur le cannabis, moi, j'ai envie, de discuter avec les jeunes pour qui c'est très important d'avoir ces petits moments là d'évasion, de création de petits paradis artificiels. Moi, j'ai envie de m'adresser à eux et de leur dire mais il faut le paradis, il faut se battre pour qu'on l'ait là sur Terre, pour qu'on construise une société meilleure ensemble, pour que on avance tous, qu'on transforme ce monde, et ne vous réfugiez pas dans un monde parallèle, prenez part à cette transformation de la société. Donc moi j'ai envie, je pense que voilà, la drogue, de façon générale, l'alcool, c'est abrutissant, et finalement ça nous voue à subir la situation et à ne pas être acteur. Donc ça, c'est la première chose. Moi, en tant que militante révolutionnaire pour changer les choses, j'ai envie de convaincre les jeunes de cela. Maintenant, je constate que effectivement la prohibition du cannabis, la pénalisation, ça ne marche pas. Donc moi, je suis effectivement pour la dépénalisation. Après, le reste, je pense que oui, il y a aussi un combat à mener, d'entraîner ces jeunes, les faire vibrer à un autre idéal. Aujourd'hui, c'est ça qui manque dans la société. Hein, c'est que voilà, ce chacun pour soi, c'est vraiment dramatique, parce que justement, tout le monde s'enferme dans son petit monde parallèle, et ça peut pas être une solution.
Jacques Cheminard.
Il y a beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un mouvement des étudiants dentaires qui sont très actifs et qui posent beaucoup de questions. Alors, on va en prendre une au hasard. Désolée, on ne peut pas toutes les poser. Les étudiants dentaires donc en grève depuis 9 semaines, inquiets pour leur avenir. Quel avenir pour la dentisterie ? Ils dénoncent notamment le fait que la santé bucco-dentaire soit, d'après eux, en train d'être vendue aux mutuelles et aux centres low cost. Un petit mot là-dessus ? Nathalie Arthaud.
C'est possible que ce qu'ils dénoncent là soit vrai. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire à ces étudiants qui sont jeunes, c'est que tout est vendu dans ce système, effectivement, au pouvoir, au grand capital. S'ils croient qu'il y a des choses qui se font comme ça de façon désintéressée, que le dentaire, que même la santé, on fait du profit, du business sur la santé. Maintenant, on le fait même sur le troisième âge, maintenant c'est la silver economy, on nous dit. Donc voilà, moi, il y a bien sûr des cliniques qui sont privées, qui sont cotées en bourse, il y a des maisons de retraite qui sont cotées en bourse, donc effectivement on cherche à faire de l'argent sur tout maintenant. Donc effectivement, si ces étudiants-là le découvrent aujourd'hui et en sont choqués, moi j'en suis ravie, mais il faut aussi qu'ils élargissent un petit peu leur vision et qu'ils se rendent compte que c'est comme ça que notre société elle fonctionne, parce que c'est une société qui est dominée par le capitalisme. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, en découvrant la chose de leur point de vue, très bien, mais il faut qu'ils élargissent leur combat et qu'ils rallient effectivement le combat de ceux qui ont intérêt à le changer, parce que ceux qui sont exploités et qui veulent effectivement un autre avenir.
sur cette question. Jacques Cheminade.
La mesure pour cela, c'est une sécurité.
Liarto avec Jacques Cheminade en direct sur Facebook, sur Periscope également. Vos questions sur les thèmes à venir, la sécurité et la police. Et puis nous terminerons sur la place de la France dans le monde. Vos questions donc à Jacques Cheminade, à Nathalie Arthaud sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag l'autre débat et sur les commentaires de la vidéo que vous pouvez suivre en direct sur Facebook Live. La sécurité, donc à présent, avec la lutte contre le terrorisme notamment, quel état de droit face au terrorisme? C'est la grande question qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. Cela fait 16 mois maintenant que l'état d'urgence est en vigueur en France, 16 mois après les attentats du 13 novembre 2015. Certains veulent que cet état d'urgence soit maintenu, d'autres qu'il cesse. Vous, quelle est votre position sur ce point, Nathalie Arthaud?
Non, moi, je crois que il n'a pas lieu d'être, il n'a plus lieu d'être. Bon, y compris les experts, les juges expliquaient que bon, bah, 15 jours, 3 semaines après les événements, ça pouvait avoir du sens, mais qu'aujourd'hui, ça n'en avait plus. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, tous là, sur ce terrain-là, font de la surenchère démagogique. Hein. Il faut toujours plus de sécurité, etc., etc. Et puis, on a vu ce qui s'est passé à Nice.
Hein. Le contexte, c'est une question qui se pose.
Bien sûr, mais regardez Nice. Hein, c'est la ville. On ne peut pas faire l'affront à M. Estrosi de dire de sa ville que c'est une ville qui n'est pas sécurisée et qui manque de vidéosurveillance et qui manque de forces de police. Hein, c'est une des villes sans doute la plus sécurisée. Et voilà. Et je crois que c'est complètement démagogique que de dire qu'il suffira de faire ci, de faire ça et que toujours plus d'état d'urgence. Voilà. Donc non, moi je crois que en réalité ils sont complètement démunis face à ce terrorisme. Je crois qu'ils ont une responsabilité, tous ceux qui ont gouverné en France, les dirigeants français, écrasante, effectivement, dans ce terrorisme, parce que d'où vient-il? Eh bien, c'est le fruit pourri des guerres impérialistes qui sont menées par la France au Moyen-Orient. C'est ça la réalité de ce terrorisme, c'est effectivement l'écho de ces guerres, c'est le chaos qui a été installé du fait de ces guerres à répétition en Irak, en Libye, en Syrie, et qui de ces manœuvres aussi, de ces manœuvres qui ont consisté à la fois pour les Américains, mais aussi pour les Français, à soutenir telle bande contre une autre, à les armer, à soutenir, bon ben voilà, aujourd'hui encore, le Qatar, les monarchies moyenâgeuses, bon, et finalement ça nous revient dans la figure, voilà la réalité des choses. Donc je peux vous dire que moi, tous ceux-là qui nous ont enfoncés dans cette situation-là, je ne leur fais absolument pas confiance.
Jacques Cheminade, est-ce que vous partagez cette analyse?
Pas confiance, mais je crois qu'il faut les chasser du pouvoir.
J'ai cette thématique de la lutte contre le terrorisme et de l'état de droit. D'abord, Cyrus vous demande sur Facebook quels moyens est-ce que vous offririez aux forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme et la grande délinquance. Et une autre question de VMC sur Twitter. Quelle est votre position sur le fichier biométrique qui, par décret du 30 octobre dernier, fiche désormais les 65 millions de Français? Nathalie Arthaud.
Moi, je suis contre, évidemment. Je suis contre ce fichier. Et encore une fois, en plus, là, on mélange la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre le terrorisme. Je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes moyens. Mais surtout, encore une fois, le problème, il faut le prendre à la racine. Et la première des choses, c'est d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, d'alimenter effectivement ce chaos au Moyen-Orient qu'on continue encore aujourd'hui d'alimenter. C'est y compris quand il y a un acte terroriste comme celui qui a eu lieu à Orly ce week-end, eh bien qu'on n'entende pas ces amalgames, que ça soit pas l'occasion de jeter son poison raciste, xénophobe contre les musulmans, d'entendre tous ces amalgames contre l'immigration, parce que tout ça justement, cela crée des fossés. Tout cela, c'est une politique qui pousse au communautarisme. Communautarisme qui peut effectivement être aussi le lit de ce fanatisme-là. Donc voilà, moi je crois qu'il y a des choses quand même très à faire politiquement. Et c'est exactement l'inverse de ce que nous proposent tous ceux qui prétendent avoir des super plans pour lutter contre le terrorisme.
Avant de vous écouter, Jacques Cheminade, sur cette question notamment du fichier biométrique, très concrètement, pour prolonger votre réponse, Nathalie Arthaud, Thierry, faut-il plus de policiers, oui ou non, Et si oui, combien ?
Non, moi je crois pas. Je crois pas.
Pas plus voilà. de policiers.
Non, je crois que la société, il faut qu'elle change. Elle est malade.
C'est clair.
La société est malade et il faut la prendre le mal à la racine, c'est-à-dire faire en sorte qu'y compris ces jeunes là qui sont si désespérés, isolés, marginalisés, qui sont devenus fous pour beaucoup d'autres. Hein. Il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient. Hein, et il faut réparer tout cela en remettant effectivement, eh bien, une société qui donne de véritables droits à tous. Donc moi, je crois que s'il y a une lutte à mener, c'est la lutte contre ce chômage, contre ces inégalités, contre cette marginalisation, contre cette misère, contre toute cette situation qui tend les relations entre les gens, qui délite en fait les liens sociaux. Moi, je crois qu'on est dans une situation où de plus en plus on nous force à nous isoler, à nous forger une carapace. Il faut pas regarder la misère. On est déjà tellement en galère chacun, hein, chacun pour soi. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut changer, parce qu'effectivement, on est dans une société de plus en plus déshumanisée. Et le résultat, c'est effectivement c'est aussi ça, c'est ce fanatisme religieux et ce terrorisme.
Jacques Cheminade.
L'accueil de ces réfugiés qui dépend aussi d'une décision du gouvernement.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, cette politique du gouvernement Hollande, hein, prétendument de gauche, socialiste, est purement criminelle parce que ces centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont réussi à mettre le pied sur le continent européen sont des survivants. Voilà, hein, ils viennent tout droit de l'enfer, ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, hein, en jouant à la roulette russe avec leur vie, et ici, ils se retrouvent enfermés dans des camps, derrière des barbelés, ils sont traqués par la police quand ils veulent faire quoi ? Rejoindre de la famille, des amis, dans un certain pays, parce que justement le pire, c'est que il y a des bonnes volontés. Ils auraient, y compris des gens prêts à les aider, à les accueillir, et on les en empêche. Donc effectivement, moi je dénonce cette politique, et moi je me bats pour que les travailleurs, ils aient cette conscience qu'il faut effectivement reprendre ce mot d'ordre de la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Parce que ce n'est pas qu'une question de solidarité ou d'humanisme, c'est aussi une question d'intérêt. C'est notre intérêt à tous. Quand on est, nous, ici, dans une région désertée par les entreprises en France, heureusement qu'on peut aller dans d'autres régions, qu'on peut se déplacer, qu'on peut circuler. Et quand on ne trouve pas de boulot en France, combien de jeunes partent en Angleterre, au Canada, en Australie? Et ils peuvent le faire. Ils ont cette liberté-là. Eh bien, moi, je suis pour que cette liberté-là, elle soit donnée à tous, tout simplement. Et c'est notre intérêt commun, parce que la force des travailleurs, c'est justement de ne pas se laisser diviser, se laisser dresser les uns contre les autres.
Vous parlez de solidarité, Nathalie Arthaud.
Non, mais accueillir les migrants, c'est pas pousser les murs, hein, et puis voilà, partager votre lit avec. C'est pas ça.
Certains l'ont fait,
non,
hein, en France.
Mais écoutez, moi, c'est pas ça que je demande. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, combien y a-t-il de logements vacants ici ? Combien y a-t-il d'emplois à créer dans le bâtiment, hein, parce qu'il manque des logements, il paraît qu'il en manque plus d'un million, des logements accessibles à un salaire d'ouvrier, mais il faut les construire, il manque des peintres en bâtiment, des électriciens pour construire tout ça, on a besoin de bras. Moi, quand j'entends, hein, qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais c'est une escroquerie. Hein, la misère, il la fabrique à coup de chômage et de précarité. Mais en réalité, il y a beaucoup d'emplois à créer, hein, et on pourrait se répartir le travail et faire que tous les bras, justement, participent et soulager le travail de tous. Il y a énormément de richesses dans cette société, mais il faut se battre pour effectivement que cette richesse, elle serve à tous. Hein, moi, je crois que l'intérêt des travailleurs, c'est justement, au lieu de se dresser les uns contre les autres, de se dire il faut qu'on se partage la misère et qu'on se batte, hein, pour se partager la misère, il faut se battre pour que une minorité n'accapare pas toutes les richesses de cette société. Moi, je trouve complètement fou, hein, alors que ce sont des femmes et des hommes qui arrivent avec cette volonté de travailler, de construire. Mais vous savez, d'ailleurs, l'immigration, hein, elle a construit la France. Hein, les barrages, les routes, les logements. Hein, quand j'entends Marine Le Pen nous expliquer que c'est un problème, mais si ça se trouve, sa voiture, elle a été fabriquée sur des chaînes de montage par des travailleurs immigrés ou par des descendants. Donc la réalité, c'est que l'immigration forme une partie importante, une fraction importante de la classe ouvrière, c'est une partie intégrante de la classe ouvrière. Et voilà, moi je suis toujours révulsée, hein, d'entendre ces discours de rejet, de nationalisme. Bon, et encore une fois, Marine Le Pen se dit indignés de ce que l'on donne quelques euros à des demandeurs d'asile. Quelques euros par jour, c'est rien. Jamais, jamais on l'entend dire un mot hein, quand on apprend que Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, gagne chaque jour 41 000 euros. Là, elle n'a rien à dire contre cela. Mais pourtant, le problème, il faudrait le prendre par ce bout-là. Effectivement, par ses parachutes dorés, par ses grandes rémunérations, par ses dividendes, par ses grandes fortunes. Et là, oui, en organisant la société, eh bien, rationnellement, en fonction des intérêts de tous, il y aurait de la place pour tout le monde sur cette planète.
On va... Avec un trait quand même très particulier de notre époque.
On parlait de cette crise migratoire, on a pu mesurer à cette occasion les lacunes de l'Europe. David, sur Facebook, vous demande si vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Et on vous invite à faire des réponses un peu plus courtes, parce que plus vous faites des réponses courtes, plus on peut répondre aux questions des internautes.
C'est une question, le Frexit, qui est reprise par d'autres internautes, de Tony Kindred, si j'arrive bien à le lire, sur Twitter. Enfin bref, voilà, c'est un sujet qui intéresse nos internautes.
Nathalie Arnaud. Je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et je pense que c'est de la diversion. Que, effectivement, taper sur l'Union européenne, ses responsabilités, faire croire que c'est de l'Union européenne que vient le chômage, etc., c'est tromper les travailleurs. Et c'est justement exonérer de ses responsabilités la classe capitaliste contre laquelle il faut se battre.
On reste dans l'Union européenne, Nathalie Arthaud.
Vous savez, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, est-ce que cela va aider les salariés à obtenir des augmentations de salaire? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça va empêcher les suppressions d'emplois dans les entreprises? Je ne crois pas. Hein, tout ça, c'est effectivement de la diversion. Encore une fois, on nous montre l'Union européenne, l'étranger, comme responsable, alors qu'on a à régler nos problèmes là, face à ceux qui nous exploitent, tout simplement, et ceux qui prennent les décisions, hein, et qui sont bien en chair et en os, et qui ont une politique. Donc, il faut que les travailleurs aient une politique et qu'ils identifient leurs ennemis, les responsables de leurs conditions.
Sur le Frexit,
l'Union européenne.
Pour quelle relation avec l'Amérique de Donald Trump?
Bon, moi, je joue pas à la présidente. Hein. On est d'accord. Simplement, Donald Trump, effectivement, il représente le gouvernement par excellence de la bourgeoisie américaine. D'ailleurs, à ses côtés, il y a directement des représentants de la finance, du pétrole, qui sont dans son équipe. Hein, et il gouverne avec cette arrogance incroyable, avec ce mépris social. Complètement fou, ce racisme quotidien. Alors même que Donald Trump est un de ceux qui a fait sa fortune sur le travail des immigrés mexicains, en particulier dans le bâtiment. Donc voilà, il est vraiment à l'image de la bourgeoisie pour laquelle il gouverne, Donald Trump. Et en même temps, vous savez, c'est pas qu'une question de bonhomme, hein, parce que Donald Trump effectivement laisse planer des doutes sur sa politique internationale. Sur sa politique guerrière, etc. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'avec Bush, on a eu l'invention des armes de destruction massive qui a entraîné cette guerre en Irak. Donc, de toute façon, la politique, si vous voulez, l'impérialisme américain, c'est une politique qui est dangereuse pour les peuples, dangereuse pour... Alors, l'impérialisme américain, attention, parce que moi, j'ai l'habitude de balayer devant ma porte, l'impérialisme américain qui est systématiquement suivi par l'impérialisme français.
Américain, c'est l'impérialisme...
En France, qui finance votre campagne, Nathalie Arthaud? Parlez de transparence tout à l'heure, donc c'est une question aussi qu'on est en droit de se poser.
C'est très simple, nous c'est les militants, les cotisations des militants, la souscription que nous avons ouverte. Ma campagne, elle va nous coûter un peu moins d'un million. C'est une campagne qui sera d'ailleurs remboursée à hauteur de 800 000 euros, parce que il y a un remboursement de 800 000 euros, quel que soit le score que l'on réalise. Donc, nous, elle nous coûtera, 100 000 ou 200 000 euros, cette campagne. Voilà.
Et vous payez vos costumes?
Complètement. Et je peux vous dire que j'ai jamais rien acheté à 6 500 euros.
Qui finance votre campagne, vous, Jacques Cheminard ?
La même chose, ce sont des militants, ce sont des donateurs. Notre campagne jusqu'à maintenant coûte 140 000 euros environ. La campagne totale, plus les 150 000 euros d'avance de l'État, ça fera 290 000, on aura 100 000 euros de plus. On arrivera vers 400 000 euros, donc c'est encore moins que lutte ouvrière. C'est très peu.
Parce que moi, je fais beaucoup de meetings, figurez-vous. Je vais dans toutes les villes, je me déplace parce qu'on fait une campagne militante, parce que justement, on n'attend pas que les grands médias nous donnent la parole. Et on sait que, voilà, le militantisme, le bouche-à-oreille militant, c'est quelque chose d'important aussi.
C'est ce qu'on fait aussi.
Donc, voilà la campagne aussi que je fais sur le terrain.
Mais je crois...
Jacques Cheminard, par rapport à Nathalie Arthaud, un peu plus de 2 minutes d'avance. Une question, Nathalie Arthaud, d'A. Chusville, posée sur Twitter. Philippe Poutou a préféré rester à Bordeaux ce soir. Il y a des raisons sociales à cela. Son usine est en grève, nous l'avons dit en ouverture de ce débat. Cette question, pourquoi ce qui était possible en 99, demande cette personne, une liste commune lors d'une élection, ne l'est pas aujourd'hui en 2017 entre le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Lutte ouvrière que vous représentez?
C'était effectivement un scrutin de liste. Je crois que c'était les régionales. Là, il s'agit d'une présidentielle et c'est bien normal que chaque courant puisse s'exprimer. Vous savez, on a eu cette nuance de gauche, cette nuance de droite aux différentes primaires. Et là, nous sommes deux courants de l'extrême gauche, et y compris dans le mouvement ouvrier, y compris du côté des travailleurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait un parti unique. Hein, nous avons nos différences et nous avons ce point commun de partir du problème, du point de vue et des problèmes des travailleurs. Mais il n'y a aucune raison que l'on ne se saisisse pas de la parole. Vous savez, dans cette élection, l'essentiel, et moi je tiens à le dire justement aux travailleurs qui nous écoutent, c'est de s'exprimer et c'est de pouvoir, tous ceux qui se retrouveront derrière le programme de lutte que je présente, qui se retrouveront derrière cette idée de dénoncer l'exploitation, de dénoncer la dictature de la classe capitaliste et qui justement pourront comme ça ne pas rester isolés, mais qui pourront rallier un camp, eh bien pourront se compter et mesurer le courant qu'ils représentent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont révoltés aussi, mais chacun dans son coin, de façon isolée, s'exprimer collectivement, c'est déjà quelque chose d'important, c'est apparaître comme une force politique, c'est prendre confiance dans ce que nous représentons comme force, parce que c'est 200 000 voix, mais 0,56% en 2012. 200 000 voix, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Je peux vous dire que 200 000 travailleurs combatifs, conscients de leurs intérêts, qui ont envie d'en écouter dans toutes les entreprises, quand il y a justement un peu de colère sociale, ça peut compter, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut faire gagner des grèves, ça peut développer une véritable un mouvement social. Et donc moi c'est pour cela que je milite.
3 questions encore à vous poser avant la fin de ce débat. À vous encore, Nathalie Arthaud. Vous avez encore un peu de retard sur Jacques Cheminade. Question qui concerne l'indépendance des médias en France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Que comptez-vous faire? Quelles sont vos propositions pour garantir l'indépendance des rédactions des médias en France?
Moi, je suis pour, de façon générale, moi je suis communiste, je suis pour l'expropriation de la bourgeoisie, je suis pour l'expropriation de la propriété privée des grands moyens de production. Donc effectivement, les médias, ça fait partie effectivement des secteurs que je pense qu'il faudrait, comme le secteur bancaire, faire fonctionner de façon collective. Voilà, de façon collective pour l'intérêt public.
Réponse courte, Jacques Cheminade, sur cette question. Que comptez-vous faire sur l'indépendance des médias pour garantir l'indépendance des médias?
La politique du Conseil national.
N'oubliez pas votre...
Déjà, donner le droit de vote aux étrangers dans toutes les élections.
François Fillon,
partisan de cette mesure.
François Fillon, ce soir, regrette que tous les candidats à l'élection présidentielle, les 11 candidats à l'élection présidentielle, n'aient pas pu être invités sur le plateau de TF1. Quelle est votre réaction à cette déclaration du candidat du Parti Les Républicains?
Il n'est quand même pas allé jusqu'à conditionner sa participation à ce débat à cela.
Jacques Cheminade.
Même réponse. On peut dire des choses et après ne pas faire ou ne pas agir en fonction de ce qu'on dit.
Avant de terminer, avant de conclure, une dernière question. Un mot, Jacques Cheminade, pour résumer votre programme et votre idée de la France, votre programme en quelques mots.
En quelques mots, se libérer de l'occupation financière et culturelle pour bâtir un ordre de justice, de paix par le développement mutuel et de vraie croissance physique.
Nathalie Arthaud, puisque c'est vous donc, qui avez le dernier mot, comme le tirage au sort on a décidé avant le début du débat.
Donc moi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à rejeter cette duperie hein, de l'élection nous pousse, enfin en tout cas qui installe toute une pression hein, pour qu'on choisisse parmi trois, quatre candidats qui sont tous des adversaires, qui sont tous des serviteurs dévoués de la bourgeoisie, et je les appelle à affirmer leurs intérêts, leur politique, qui est d'abord et avant tout une politique de lutte hein, pour effectivement un emploi, un salaire, un logement, et donc je les appelle à faire un vote tout simplement de conscience de classe et un vote de combativité et de fierté ouvrière.
Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation d'Explicite ce soir pour venir débattre et surtout répondre aux questions des internautes. Et elles étaient nombreuses, toutes ces questions. On n'a pas pu malheureusement toutes les poser. On a passé quand même plus d'1h40 à essayer de répondre à un maximum de questions. Voilà, c'est la proposition que vous fait Explicite. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci au groupe OnePoint de nous avoir accueillis ce soir.
Merci à toute l'équipe d'Explicite qui nous a aidés à retransmettre ce débat, et merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir fait part de vos questions. Restez connectés à Explicite sur Twitter, sur Facebook. Nous allons vous faire vivre et nous allons suivre avec vous la campagne présidentielle en France, campagne 2017. À très bientôt. Bonne fin de soirée.
Bonsoir.